Didier Blondel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier d'Abivax. Nous sommes avec vous au large European Midcap Event où vous rencontrez des investisseurs avec une publication récente vous concernant. Comment va Abivax en cette année 2018 ?
Bien, Abivax est à une période charnière qui est absolument passionnante de son histoire. Lors de nos communications récentes, on a pu apporter un élément de mise à jour sur notre portefeuille et les choses bougent puisque il y a de ça un petit peu plus d'un mois, nous avons publié les résultats d'une étude qu'on considère majeure et impressionnante sur notre produit de tête, la BX464, qui a montré dans une indication qui s'appelle la rectocolite hémorragique, qui fait partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que nous avions à la fois un profil de sécurité qui était tout à fait satisfaisant, mais aussi on commençait à montrer de manière très impressionnante des éléments d'efficacité qui permettent de croire que ce produit pourrait apporter à plus long terme une solution thérapeutique à plein de patients qui souffrent et qui ne sont pas aujourd'hui pris en charge par les traitements actuels. Donc ça, c'est un point important pour nous.
Qu'est-ce que justement ça change par rapport au profil peut-être initial qu'on avait même les uns et les autres d'Abivax ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, ou très récemment, on était plutôt regardé comme la société VIH, comme la société qui devait apporter une solution complémentaire, innovante pour la guérison fonctionnelle du VIH. Ça reste vrai, mais on apporte un élément complémentaire qui est que maintenant, nous pouvons aussi, nous avons démontré qu'on peut s'adresser aux pathologies inflammatoires. Donc on commence par la rectocolite hémorragique. On va travailler très rapidement sur l'indication jumelle dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui s'appelle la maladie de Crohn. Et au-delà de ça, on a plein d'idées et de projets, à commencer par la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça rééquilibre notre portefeuille en apportant une colonne complémentaire dans notre stratégie sur notre produit de tête, sans parler du reste du portefeuille.
Ça veut dire effectivement un rééquilibrage, comme vous dites, mais il faut mener tout de front. On sait que c'est jamais évident pour une société de biotechnologie.
C'est absolument vrai, donc ça nous impose à la fois de continuer à être efficace dans la façon dont nous gérons nos affaires et on a publié nos résultats financiers qui montrent que, j'allais dire, en ayant un niveau d'investissement tout à fait raisonnable, on sait faire avancer nos projets, donc on va continuer à le faire, mais probablement aussi pour nous, la question de la priorité dans le développement des indications de notre produit tête est posée. Et clairement, nous avons affiché que notre priorité numéro un est la rectocolite hémorragique, compte tenu des résultats récents qu'on vient d'avoir, tout en continuant le reste du portefeuille, mais en fonction de nos capacités.
Il y a toujours effectivement pour les sociétés de biotechnologie l'idée d'aller au bout tout seul, l'idée aussi parfois de négocier des partenariats. Du point de vue des investisseurs, ça peut avoir un impact. Quelle est la stratégie dans ce domaine pour vous ?
Alors, notre stratégie a toujours été de trouver un partenaire. On avait plutôt l'idée jusqu'à présent d'attendre un peu et d'avoir un partenaire en place au moment où on attaquerait les phases 3. Il nous reste encore la phase 2B à réaliser. Ce qu'on peut dire sans révéler de grands secrets, c'est que nos résultats ont quand même marqué les esprits, les résultats qu'on a publiés début septembre, et que depuis lors, je dirais, l'intensité de nos discussions avec les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique a progressé. Donc on est plus ouvert aujourd'hui à regarder une opportunité de partenariat qui serait sur un calendrier, un horizon plus rapide.
Alors, il faut peut-être rappeler pour les investisseurs qui vous suivent et qui nous suivent que ça prend toujours du temps. Hein. Un partenariat, ce n'est pas signé aujourd'hui, enfin en quelques jours. Ça prend plus de temps que ça.
Absolument. C'est-à-dire entre le moment où on commence à avoir des contacts plus approfondis et le moment où le partenariat se concrétise, les standards, je pense, sont 6 à 9 mois. Après, évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend bien sûr de l'intérêt que des partenaires peuvent avoir, de la compétition qu'ils peuvent avoir autour des différentes sociétés qui peuvent avoir envie de travailler avec Abivax ou avec une société de biotech. En tout cas, nous, on est prêts à avancer vite en fonction des contacts qu'on pourra avoir.
Vous parliez du reste du portefeuille. Justement, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur son évolution ?
Le reste du portefeuille, il est moins sous les lumières de l'actualité, mais il continue à avancer. Notre deuxième produit, qui s'appelle ABX196, devrait ou va rentrer en développement clinique au début de l'année 2019. Alors, c'est un produit qui est dans une sphère différente puisque c'est en oncologie. Et ce produit, en association avec la dernière génération de produits anti-PD-1, donc les Keytruda, les Opdivo qui sont aujourd'hui sur le marché, pourraient permettre d'accentuer l'efficacité de ces produits en l'associant à la BX196, notamment dans certains types de cancers. Et ce qu'on vise, c'est le cancer du foie, fondamentalement, pour démarrer en ayant plein d'idées pour la suite. Donc là, une étude clinique va démarrer l'année prochaine. Et après, on a le reste du portefeuille parce qu'on a une plateforme technologique antivirale et on commence à avoir des produits qui devraient se rentrer en développement à compter de la fin de cette année ou le début de l'année prochaine dans d'autres indications, le virus respiratoire syncytial, la grippe, la dengue et d'autres idées qu'on a aujourd'hui.
Vous parliez de ces résultats semestriels. On regarde toujours attentivement la situation financière. Quelle est-elle et comment va-t-elle évoluer ?
Alors, situation financière, je vais plutôt parler en fait de notre trésorerie et de nos besoins de financement. À ce stade, Abivax est financé jusqu'au quatrième trimestre 2019. Grosso modo, on va dire jusqu'à la fin de l'année prochaine. Nous savons que ce n'est pas assez pour pouvoir couvrir nos besoins par rapport au portefeuille que nous avons en main. Donc on réfléchit bien sûr aux options pour la suite. Ce qu'on a dit, c'est que pour l'instant en tout cas, compte tenu du fait que notre cours, à notre sens, est bas par rapport au potentiel de la société, on n'envisage pas de faire d'augmentation de capital parce que ça aurait un caractère trop dilutif par rapport au potentiel de notre société. Donc on réfléchit aux différentes options, dont le partenariat, bien sûr, pour nous aider à nous financer plus tard.
Oui, est-ce que c'est un sujet pour les petits porteurs, les actionnaires individuels qui investissent dans les biotech et puis qui voient ces augmentations de capital à répétition qui sont diluées et il y a une vraie critique par rapport au mode de fonctionnement de la biotech en bourse.
Je comprends parfaitement la critique. Après, le modèle des biotech intrinsèquement porte cette particularité puisqu'en fait, lorsqu'une biotech démarre, elle n'a pas tout l'argent pour avoir le développement de ses produits jusqu'au bout. Donc, à un moment ou à un autre, aura recours à des financements complémentaires. Différentes options sont possibles, hein, comme on l'a évoqué. En tout cas, du côté d'Abivax, on est extrêmement sensible à la vue des petits porteurs ou de nos actionnaires, d'ailleurs, au sens large. Donc, on est attentif à toujours équilibrer entre ce qui serait de nature dilutive et ce qui serait de nature non dilutive. Donc, à court terme, en tout cas, pas de dilutif du côté d'Abivax n'est envisagé.
Merci beaucoup Didier Blondet d'avoir fait le point avec nous.
Merci monsieur, bonne journée.